Farming Simulator 22.
Cultivez les bons moments avec Farming Simulator 22.
Bonjour à tous, c'est Marlon, plus connu sous le nom d'Energy 5, et bienvenue pour un nouvel épisode de Cultivez les bons moments, le podcast dédié à Farming Simulator et à l'agriculture française. Aujourd'hui, nous allons parler d'apiculture ainsi que de maraîchage, et pour répondre à mes questions, j'ai l'honneur d'avoir Nicolas Verrier du Moulin de Vaujours. Bonjour Nicolas.
Bonjour Energy 5.
Alors Nicolas, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu vous et votre parcours pour ceux qui nous écoutent?
Je suis monté à Paris pour seconde, première, terminale, bac. Et puis après, en fait, j'ai fait des études supérieures en art à Pingen.
Ok.
Voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai postulé en agence, j'ai été engagé à McCann Erickson. Et puis très vite, ça m'a saoulé, donc je me suis mis freelance. Et après, j'ai travaillé pour plusieurs agences dans l'ouest de Paris. Et parallèlement, j'ai travaillé en freelance pour la Maison du Chocolat. Voilà, et puis en 2007, j'avais plus de difficultés à trouver de la clientèle. Et parallèlement, j'avais acheté une maison dans le Perche.
D'accord.
Donc, j'ai fait le choix de quitter Paris pour m'installer ici et continuer à bosser sur Paris. Et à partir de 2007, j'ai commencé, comme économiquement c'était un peu plus difficile, j'ai commencé à chercher localement du travail et j'en ai trouvé. Donc, j'ai travaillé pour le parc du Perche pendant 4 ans. J'ai fait un peu tout, scéno, photographie, graphisme.
Ok.
Et puis voilà, puis à partir de 2012, j'ai commencé à me poser des questions sur si j'avais vraiment envie de continuer dans ce domaine.
Et alors, pour récapituler, vous avez fait graphiste pendant combien de temps?
On va dire sur les grandes lignes, j'étais 20 ans graphiste.
Mm-hmm.
D'abord en freelance, en agence. Après, en indépendant pour différentes boîtes. Une boîte qui s'appelait Caredas, qui n'existe plus aujourd'hui. Et parallèlement à ça, j'ai été donc directeur artistique de la Maison du Chocolat pendant 4 ans.
Ah d'accord, et donc vous avez fait le choix de quitter Paris, mais ça c'était avant votre conversion professionnelle.
Quand j'ai quitté Paris, pour m'installer ici, à la campagne, je continuais à travailler sur Paris. Donc j'ai fait 2 ans, on va dire, à la Maison du Chocolat en vivant sur Paris, et les deux dernières années chez eux. En vivant ici.
Et justement, quelle est la réelle différence entre votre métier de graphiste et le métier que vous faites aujourd'hui?
Les gens n'étaient jamais contents, enfin, toujours énervés. Alors en agence, c'était plus compliqué encore parce que pour nous faire avancer, on nous agressait.
Ok.
Alors que ici, bon, d'abord, je suis mon seul patron, donc je m'agresse moi-même, c'est tout. Et ce que je disais aux gens qui viennent ici, je leur disais la grande différence, c'est que les gens arrivent avec le sourire, ils repartent avec le sourire et reviennent avec le sourire.
Ouais, ça a l'air quand même plus agréable de travailler avec des gens qui ont le sourire. Alors, vous parliez d'une remise en question en 2012. Ah ouais, c'était il y a environ 10 ans déjà.
En 2012, j'ai commencé à me poser des questions, à savoir ce que je voulais faire. Et comme ça faisait déjà quelques années que j'étais à la campagne, je faisais des pauses dans mes journées de boulot, parce que je travaillais quand même, j'avais quand même des journées de 10 heures de taf. Et je me faisais des pauses jardin.
Mm-hmm.
Je faisais un petit peu de... Alors j'ai commencé tout petit, un jour je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas un petit potager? Donc j'ai semé le long du mur de la grange des radis, et puis tous les jours j'allais voir, et je me dis, oh, ça pousse. Je me dis, c'est génial, ça pousse. Voilà. Et puis l'année suivante, je me suis dit, mais c'est génial, je vais faire un petit carré. Et puis l'année suivante, je me suis dit, je vais faire un carré un peu plus grand. Et puis de fil en aiguille, comme ça, je me suis fait donc mon potager. Et puis un jour, je discute avec une amie, Marie, qui était à l'époque ouvrière agricole, et qui me dit, on cherche des saisonniers, est-ce que ça t'intéresse?
D'accord.
Et je me suis dit, moi, dans ce moment de ma vie, je me suis dit, il faut que tout ce qu'on me propose, il faut que j'accepte, parce que ça va me permettre de rebondir, de rencontrer de nouvelles personnes, et à un moment donné, ça va s'éclaircir dans ma tête, et voilà. Donc j'ai accepté, et je me suis retrouvé donc du coup chez un producteur de patates,
mm-hmm,
bio, et à faire le tri des patates, et j'ai passé une journée formidable avec ces gens. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que le patron, c'était quand même un boulot ingrat, le patron il bossait avec nous.
Très bien.
Et tout ça, ça en fait, ça m'a fasciné, c'est pas le terme, mais ça m'a énormément plu quoi. Je suis revenu, mais irritant, hein, parce que le boulot de saisonnier, c'est pas pour des choses cool, hein, des choses ingrates quoi. Mais je suis rentré chez moi cassé de partout, mais super heureux quoi.
D'accord.
Et du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans, ponctuellement. Et puis, le jour où j'ai décidé d'être maraîcher, j'ai arrêté parce que je pouvais pas être partout.
Ouais, donc on peut dire que c'est cette dernière expérience qui a été un déclic pour vous.
Ouais, j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je voulais faire. Parallèlement à ça, donc je me posais beaucoup de questions et j'avais un ami parisien mais qui s'était installé depuis au moins 5 ans dans la région.
Ok.
Qui lui aussi se posait les mêmes questions, à savoir que le boulot qu'il faisait précédemment il arrivait à trouver moins de débouchés et il se demandait ce qu'il pouvait faire. Et un jour, il me dit tiens, j'ai vu que à l'écomusée du Perche, il y a une formation apicole.
Mm-hmm.
Est-ce que tu accepterais de la faire avec moi? Ce serait plus sympa et tout. Et puis, elle m'intéresse pas. Puis au final, j'ai accepté. Et à la fin de la petite formation, lui m'a dit ça c'est pas du tout mon truc, etc. Et moi, en fait, ça m'a énormément plu.
D'accord.
Et du coup, je me suis renseigné sur le cursus. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, mais avant d'avoir la maîtrise du vivant, avant d'avoir le nombre de ruches suffisant pour pouvoir en dégager un salaire, et l'eau qui va couler sous les ponts. Donc qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Alors lui, il a décidé d'être safranier. Et moi, j'ai décidé d'être maraîcher.
Ah bah écoutez, c'est merveilleux.
Et tout en continuant cette formation pendant une saison, donc ça ne m'empêchait pas de continuer à travailler à côté. Et en fait, la même amie là, qui était ouvrière agricole, un jour me dit « Si tu veux, tu peux venir faire le marché avec moi. » Je dis « Ah bah ouais, pourquoi pas ?» Et puis elle me dit « Mais même ce qui serait mieux, c'est que t'aies ton stand. » Je dis « Bah ouais, mais moi j'ai rien à vendre. » Et elle me dit « Bah trouve un truc à vendre. » Et puis tu mettras ton stand à côté du mien. Donc je lui dis j'ai des noix. Elle me dit très bien, tu viens avec tes noix et tout ça. Et en fait de tout le marché, j'étais pas sur mon stand, j'ai discuté avec tous les producteurs et je me suis dit ça a contribué en fait à ma décision de devenir producteur.
Ah mais oui, mais quand on regarde finalement, vous avez été un petit peu précurseur dans ce domaine, hein, parce qu'on a vu qu'avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui habitaient en ville, qui ont décidé d'aller vivre une vie plus au calme, à la campagne, de se rapprocher de la nature. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez recherché également à ce moment-là?
Je pense qu'en fait, ça a toujours été en moi, parce que j'ai été élevé ici, que, en tout cas ma tendre enfance, que je vivais à la ferme. Donc il y avait le fumier dans la cour, il y avait les vaches à côté, les moutons, les poules, etc.
Ok.
Quand je suis reparti à Paris, donc effectivement, j'ai beaucoup apprécié, et puis je pense que j'étais aussi en âge d'apprécier cette dynamique. Et après, je suis commencé à revenir donc, le week-end gentiment. En fait, ça s'est révélé à moi quand j'ai vraiment franchi le pas de quitter Paris. Parce que j'aimais bien la nature, mais entre, on va dire, résidence secondaire et résidence principale, il y a une sacrée marche, quoi.
D'accord.
Et la vie est complètement différente. Faut aussi accepter qu'à 10h du soir, ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus âme qui vive. Enfin, j'exagère un peu, mais à Paris, à 10h, on peut trouver un restaurant qui va nous servir. Ici, à 10h, c'est fini. À 9h, c'est même trop tard. Donc, c'est un changement quand même assez radical. Mais on y trouve, j'y trouve des compensations. Je ne sais pas si on peut parler véritablement de compensation, mais. J'aime en fait cette vie-là pour d'autres choses, quoi.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, ça m'est difficile de venir à Paris quand même. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai franchi le pas. Parce que du coup, je bossais à Paris, mais je vivais ici. Et donc, j'ai conscientisé les choses. C'est que la lumière du matin, les petits oiseaux, les odeurs, les saisons. Alors quand on vit à Paris et qu'on vit la nuit, on s'en fout, en fait on distingue que 2 saisons, pas 4, c'est-à-dire le soleil et la pluie.
Ok.
Voilà. Et alors là, je me suis rendu compte que, en fait, il y en avait vraiment 4. Il y avait un printemps, etc. Mais, et sentir, ou alors les jours où j'ouvre la porte de la maison et je dis, ça sent la pluie, ou ça sent la neige. Des trucs à Paris, mais on s'en tape le coquillard.
Et à part pour les restaurants qui ferment tôt, pourquoi vous avez choisi la Basse Normandie?
Bah, je suis percheron, en fait, j'ai pas fait le choix. Je suis originaire du Perche. Alors au début, sur mon flyer, pour me présenter, je disais « Ma famille sillonne le Perche depuis 4 siècles ». Et moi, je revenais le week-end voir ma famille. Et puis j'ai eu l'opportunité de racheter une petite ferme, donc le Moulin de Vaujours.
Très bien.
Donc ça c'est, j'ai pas cherché, c'est, je suis né ici et je reviens ici en fait. Je reviens à mes racines quelque part. Enfin, c'est, oui c'est ça.
Bah merci pour ces précisions. Est-ce que justement de vivre à la campagne, quelque part, ça vous fait un petit peu regretter Paris? Est-ce que cette vie parisienne vous manque?
Moi, quand j'ai vécu à Paris, j'ai adoré Paris.
D'accord.
À Paris, je vivais beaucoup la nuit. Puis comme j'étais freelance, ça m'arrivait de prendre des briefs le soir pour le lendemain, donc bosser la nuit et tout. Donc j'avais une vie nocturne. Je vivais la nuit. Et quand je suis venu m'installer ici, très vite, en fait, je me suis rendu compte que la vie, c'est le jour, c'est pas la nuit.
Et du coup, pour retrouver un petit peu cette vie, est-ce que vous seriez capable de retourner vivre à Paris?
Jamais.
Ok, ok. Alors, revenons sur les débuts de votre aventure ici dans le Perche. Comment vous avez démarré votre carrière de maraîcher?
Je suis allé voir un couple qui était à l'époque donc maraîcher. Et je leur ai posé beaucoup de questions parce qu'eux, à la base, c'est des artistes. Mm-hmm. Et puis, sa femme me regarde et me dit « Maraîcher? Seul? Genre, t'y arriveras pas, quoi ?» Et puis lui me dit, si tu fais ce métier, commence petit. Et puis j'ai fait un petit test dans mon jardin de légumes pour voir dans mon entourage comment les gens réagissaient. Donc l'année 1, c'est ça, c'est l'année 0 en fait surtout. Et puis le retour était super positif, les gens adoraient, etc. Et il y a un autre truc aussi qui est intervenu, c'est que à cette période-là, j'étais comédien amateur. Mmh. Et par cette compagnie, j'ai rencontré un couple dont le mec était saisonnier et maraîcher. Et en fait, on est devenus potes.
Ok.
Et voilà, et donc j'ai beaucoup discuté avec lui, j'ai été voir son exploitation, il m'a parlé de ce qu'il faisait et tout. Et ça aussi, ça a contribué à me dire, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et en 2016, j'ai décidé de poser un statut professionnel. Donc, j'ai pris un rendez-vous à la Chambre d'agriculture et j'ai dit, voilà, je vais être maraîcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'ils m'ont dit. Et puis, le pote Greg, je lui en parle et tout. Et il m'envoie un texto en me disant, avant que tu commences tes conneries, appelle-moi. Donc, en fait, il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a donné l'adresse des fournisseurs. Il m'a mis en relation avec le collectif d'achat local.
Ok.
Et puis, en fait, c'est aussi un gars que j'ai appelé régulièrement en disant voilà, j'ai une galère là, comment on fait? Qu'est-ce que je peux faire pour sauver? J'ai des mulots dans mon jardin. Comment je fais pour m'en débarrasser? Et voilà, il me disait bah, des chats.
D'accord.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai deux chats dans mon jardin pour faire fuir les mulots. Et voilà comment l'aventure a démarré.
Ah oui, il vous a donné de bons conseils. Est-ce que, alors, vous nous avez parlé de votre formation d'apiculteur, mais comment vous avez appris le métier de maraîcher?
Autant à l'apiculture, je l'ai appris. Autant le maraîchage, je l'ai appris. Pour l'apiculture, j'ai fait une formation. Autant le maraîchage... Je me suis démerdé, enfin j'ai appris sur le tas, quoi, comme on dit. Et donc j'ai lu des bouquins, j'ai suivi des tutos sur Internet. Et puis j'ai fait des expériences, et puis j'ai interrogé aussi des producteurs en disant ah, tu fais comment là pour faire des carottes, machin, j'y arrive pas et tout. J'ai mis du temps à définir ce que je voulais faire. Au début, je savais pas trop où j'allais, mais j'y allais. Mais et aujourd'hui, je sais où je vais vraiment. Mais au début, je me suis dit, j'aurai des abeilles noires.
Ok.
Parce que ici, on essaye de protéger l'abeille noire, donc ça me paraissait logique d'être dans cette lignée-là. J'aime ma campagne et donc c'est logique que je sois bio. Après, la permaculture et l'agroforesterie. parce que je veux être en harmonie avec mon cadre de vie.
Très bien.
Donc tout ça, c'était une évidence, mais ça s'est installé petit à petit. Avant, je le faisais en fait sans y mettre de nom, de mots. Et aujourd'hui, avec l'expérience, le recul et tout, je me dis, ah bah oui, ce que je fais, c'est de la permaculture. Ah oui, c'est de l'agroforesterie. Ah, je suis bio. Bon, bio. J'ai pas pris le label parce que ça correspond pas forcément à ma vision des choses.
Ok.
Mais tous mes clients voient bien comment je bosse. Et voilà. Au début, je voulais tout faire à la main. Donc pendant 5 ans, je faisais tout à la main. Je montais mes buts. Je préparais mon sol, etc. Je faisais tout à la main.
Mm-hmm.
Et là, depuis 2 ans, j'ai décidé de... on parle de semi-mécanisation. Donc, j'ai un motoculteur. Waouh, c'est du délire. Mais là, je rentre du coup dans une petite mécanisation. Mais au départ, je voulais être un peu puriste. Alors, c'est pas forcément... c'est pas forcément un gage de qualité. C'est juste une éthique de vie, une éthique de travail... Donc j'ai opté pour cultiver que des variétés anciennes. Alors on parle beaucoup de tomates anciennes, mais après ancien c'est ridicule quelque part le mot, mais c'est des variétés d'origine.
D'accord.
Alors moi je pars de la graine, je fais mon plan et après je le transplante dans le sol. Après il y a des ce qu'on appelle des semi-directs, donc par exemple les carottes c'est en semi-direct.
Mm-hmm.
Donc voilà j'ai opté pour faire que des légumes de saison. Parce que quitte à être intégriste dans ma façon de fonctionner, autant y être jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, je mange de saison et donc je produis de saison. Et ce que je vends, ça a été récolté le matin même. L'idée, c'est d'optimiser un maximum la qualité pour le client, quoi.
Ok.
Alors non seulement c'est des variétés anciennes, mais en plus, ça a été récolté le plus tôt possible. Pour la vente, donc généralement je me lève à 5h du matin, j'ouvre ma boutique à 10h et les gens quand ils arrivent pour prendre leur salade, elle a été cueillie 1 heure avant quoi, ou 2 heures avant.
Oui, on peut difficilement faire plus frais je pense. Est-ce que vous pouvez nous présenter le jardin du Moulin de Vaujours?
Alors oui, je peux vous présenter mon jardin. Il a évolué. Alors au début, j'ai démarré gentiment. Alors j'ai interrogé des gens qui m'ont donné leur point de vue. Et puis j'ai un petit terrain quand même. Alors ça paraît grand en soi, mais j'ai 1 hectare.
Ok.
Sur cet hectare, il y a ma maison, une grange, enfin 2 granges. Et des arbres aussi partout. Donc en surface, il n'y a pas tant que ça. Et je me suis renseigné pour savoir si on pouvait faire une production sur un petit espace.
D'accord.
Alors, c'est un peu le sujet. Aujourd'hui, il y a énormément de petites fermes qui se développent en France. Oui, on peut avoir une exploitation sur un petit espace.
Ok.
À l'époque, on commençait à parler un peu de la permaculture, d'une approche en fait plus en adéquation avec la nature et que la permaculture était vraiment destinée à des petites surfaces. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire ça.
D'accord.
Alors, j'ai commencé tout petit, j'ai fait, on va dire, 750 mètres carrés, puis l'année suivante, 1500, et puis l'année suivante, 2000, puis l'année suivante, 2500, etc. Et puis aujourd'hui, je suis environ 3500 mètres carrés de culture. À peu près. J'ai commencé avec une toute petite serre, et puis l'année suivante, j'ai rajouté une serre, puis l'année suivante, j'ai rajouté une serre, et puis etc. Donc les choses ont pris forme. Au début, c'était de la cueillette au jardin, et puis après, je me suis dit, quand j'ai eu un client qui est arrivé en me disant oh, oups, désolé, je me suis trompé, je croyais que c'était une carotte, mais c'est un fenouil. Je lui ai dit stop, on va arrêter ce concept-là, on va changer. Donc ça a évolué en fait au fil du temps.
Mm-hmm.
Et des rencontres et des expériences. Et puis petit à petit, en fait, les choses ont pris forme. Le Covid, bon, a compliqué le chemin public parce qu'il a fallu se réadapter. C'est quand même un métier où il faut s'adapter tout le temps au climat, à la clientèle, à la façon dont les gens appréhendent les choses, comment nous-mêmes, on appréhende aussi les choses. Alors, moi, je me suis dit, au début, ma ligne de conduite, ça a été de me dire... Comme je fais de la vente à la ferme, je veux que ça soit un jardin et non une exploitation maraîchère. J'ai fait en sorte que ça soit joli. L'idée, c'est ça, que ça soit joli et que les gens aient la sensation d'être dans leur propre jardin et qu'ils vont cueillir leurs propres légumes.
Et sur ce petit terrain d'un hectare, qu'est-ce que vous cultivez?
Alors, ce qu'on peut trouver, en fait, donc je fais que des légumes de saison.
Très bien.
Et j'essaye de... J'ai plus d'une centaine de variétés de légumes au jardin.
Ok.
J'essaye de tout faire, alors, en petite quantité, parce que mon espace, là, on va dire, de culture, cette année, va être, enfin, on va dire, l'année dernière, était à 3000 m². Et puis, j'essaye environ une dizaine de variétés originales, en fait, méconnues, que je fais découvrir aux clients et que je découvre aussi moi.
Et par exemple, quelles sont ces cultures originales ?
L'année dernière, j'ai fait du kiwano. Donc c'est un concombre africain, je crois. J'ai fait du cacumelon, c'est un concombre mexicain. J'ai fait de l'aubergine au Louisiane, donc c'est américain. Je fais du navet japonais. J'avais fait du maïs japonais aussi blanc l'année dernière. J'essaie des choses comme ça.
D'accord.
Donc je teste sur des petites quantités pour voir d'abord si c'est intéressant gustativement parlant, si les gens trouvent ça aussi intéressant pour eux.
Ok.
Et puis si ça plaît, j'en refais. Donc l'année dernière, par exemple, j'ai fait du concombre arménien. Donc j'en ai fait, je sais pas, on va dire 10 mètres, c'est juste pour tester. Et cette année, je vais doubler, voire tripler la production. Parce que du coup j'ai trouvé ça super intéressant en fait. Et donc j'ai une centaine de variétés sur 4000 m², parce qu'aujourd'hui je pousse à 4000 m². Donc je vais avoir 5 carottes différentes, je vais avoir 5 betteraves différentes, 10 variétés de tomates anciennes. Mm-hmm. Je fais 2 haricots verts, enfin 3 parce que les petits pois sont considérés comme des haricots verts. Donc petits pois et haricots écossais.
Ah oui, ça fait quand même une belle variété de légumes. Et au niveau des fruits, qu'est-ce que vous faites ?
Pour les fruits, alors j'en ai mis un plein en place. Sauf que je les ai implantés il y a 2 ans et que pour l'instant ça donne pas.
D'accord.
Alors j'ai des poiriers, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai 2 poiriers là qui sont installés depuis que je suis arrivé et qui donnent. Ça fait 2 ans qu'ils donnent. Et donc c'est doyenne des comices et conférences. Et voilà, mes arbres là, donc cette année ils vont être en 3e année. Si les chevreuils viennent pas foutre le bordel dans mon jardin, j'aurai peut-être des fruits cette année.
Et alors justement, tous ces légumes et peut-être bientôt ces fruits, comment vous les commercialisez ? Quels sont vos canaux de distribution ?
Alors, j'ai fait donc la vente à la ferme, je fais toujours la vente à la ferme depuis que j'ai démarré, donc je suis dans ma 7e année. Mais aussi, depuis le début, j'ai eu 2-3 personnes qui sont venues me voir en me disant « j'aime ce que vous faites et j'aimerais travailler avec vous ». Donc, ce qui m'a permis de livrer en fait des restaurants.
Ok.
Donc, et l'année dernière, en fait, un marché local m'a appelé en me disant on aimerait que vous venez faire le marché sur notre marché. Donc, j'ai accepté.
Et sur quel marché ?
C'est le marché de Bossimoji. Et c'est un marché qui a lieu le dimanche.
D'accord.
Donc j'ai fait ce marché et en fait j'adore.
Ok.
J'adore, d'abord tous les autres commerçants sont super sympas, il y a vraiment une super ambiance entre nous, on se tire pas dans les pattes quoi, on s'apprécie et même entre maraîchers, parce que on est sur ce petit marché, on est 3 producteurs et un revendeur de légumes. Et après il y a d'autres commerçants, il y a du fromage, etc, tout ce qu'on peut trouver sur un marché. Et en fait, on s'apprécie tous, on se respecte tous, et ça, c'est assez génial, en fait, humainement.
Très bien.
Et on s'entraide. Moi, quand je suis arrivé, c'est la première fois, j'ai acheté un barnum pour pouvoir abriter mes légumes du soleil et de la pluie. Et j'avais jamais monté ça de ma vie. Il y en a plein qui ont quitté leur stand, qui sont venus me voir. Ils me disent, tu veux qu'on t'aide ? C'est génial, enfin, humainement déjà.
Ah oui, et c'est sans doute justement aussi cette ambiance, cette composante humaine qui fait partie de ce que vous aimez dans le monde agricole.
Ça, c'est aussi la grosse différence entre ce que je vivais à Paris en agence, je reviens là-dessus, mais et ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité, c'est incroyable, quoi. Mon pote Greg, quand j'ai monté ma première serre, il est venu m'aider, quoi. Il a d'autres chats à fouetter que d'aller m'aider pour monter ma serre.
Ok.
Et ce jour-là, d'ailleurs, il m'appelle, il me dit ok, j'arrive, je te ramène du monde, quoi. Et on s'est retrouvés à 8 à monter ma première serre, des gens que je connaissais pas, ou de loin. Qui sont venus m'aider, quoi. J'ai halluciné. Parce qu'à Paris, on ne connaît pas ça. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous.
Ah oui, c'est quand même très sympa cet aspect humain. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. Sur Farming Simulator 22, nous avons eu l'arrivée de l'apiculture qui a vraiment changé beaucoup de choses, notamment lorsque nous plaçons nos ruches à proximité de cultures telles que le colza, les pommes de terre ou le tournesol, elles bénéficient d'une meilleure croissance grâce à la pollinisation. Et également, il y a des conséquences dues aux saisons. Donc, on a évidemment plus de miel à certaines saisons quand les plantes sont en fleurs. Est-ce que vous, Nicolas, vous pouvez nous parler un petit peu de vos ruches ?
Moi, j'ai opté pour les abeilles noires parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est les abeilles locales. Alors, c'est pas, en fait, c'est l'abeille française pour moi.
Ok.
Mais après, c'est une abeille qui s'adapte, qui n'est pas hyper productive, mais qui est rustique et locale. On dit souvent que l'abeille noire est agressive. Moi, je ne l'ai pas constaté, en tout cas, sur mes abeilles. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas des abeilles productives, productrices de miel.
D'accord.
Et après, je ne les force pas, je ne les pousse pas, je ne les nourris pas plus que ça. J'essaye en sorte qu'elles se débrouillent toutes seules, parce qu'en fait, avant que l'apiculteur existe, les abeilles, elles se débrouillaient très bien toutes seules.
Et chaque année, ça représente quelle quantité, cette récolte ?
Alors en fait, tout est fluctuant à tous les niveaux, que ce soit les légumes ou la production de miel. Alors après, pour parler de la production de miel, il y a des années sublimes et puis des années merdiques. Donc pour donner un exemple, la dernière qui était une catastrophe pour toute la France, j'ai fait 10% de production.
Et alors, en moyenne, combien ça représente de pots ?
Alors, je vais parler en kilos, parce qu'on parle en kilos pour le miel. Donc j'ai fait, en fait, il y a 2 ans, année Covid, j'ai fait 700 kilos de miel avec 19 ruches.
Ok.
Parce qu'en fait, quand on a 24 ruches, par exemple, les 24 ruches ne produisent pas du miel. Alors surtout, en plus, quand on décide de laisser faire la nature, comme c'est mon cas, je regarde celles qui sont en mesure de pouvoir produire et je fais le nécessaire. Voilà. Donc j'ai eu 19 ruches qu'on récolté sur 24, mmh. Et j'ai fait 700 kilos de miel sur la saison. Et l'année dernière, j'avais toujours 24 ruches, mais je devais en avoir peut-être que 10 qu'on récolté. Et j'ai fait 74 kilos de miel.
Ah oui, 10 fois moins. Ah, c'est colossal. On espère que cette année, elle sera clairement meilleure et que vous allez faire 20 fois plus. Comment il est possible d'acheter votre miel ?
On peut acheter mon miel, on peut acheter mes légumes. Il faut faire l'effort de se déplacer dans le Perche.
Ah oui, bon bah nous, on ne doute clairement pas que ça en vaut la peine. Merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à nos questions.
Merci Énergie 5.
Et quant à moi, je vous dis à bientôt.
Farming Simulator 22. Semer aujourd'hui, récolter demain.